On vit une drôle de période. Notre président de la République nous a dit que nous étions en guerre. Ça a été relayé par son Premier ministre. Et c'est vrai que ce matin, en venant ici, je me suis dit, Richard, tu prends un risque. Tu viens, tu arrives dans une église, il y a un groupe de gens qui sont là. On vit dans un quartier précaire. Et tout comme c'est arrivé à Paris, on pourrait débarquer quelqu'un ici avec une Kalachnikov. Moi, j'ai déjà expérimenté directement ici sur le parking, puisque un mardi soir, vous le savez les uns les autres, on a vu une voiture arriver avec une Kalachnikov. Moi, je pensais que c'était une pièce de théâtre. J'y croyais pas du tout. En plus, j'ai fait l'armée, je sais ce que c'est un engin de guerre. Mais j'entendais des pétards, je me dis, tiens, il y a un spectacle qui se passe là. Et puis je vois un groupe, ils étaient en train de dealer de la drogue, comme il y en a beaucoup ici. Et puis un jeune qui se détache, 25 ans. Et puis le gars pointe son arme sur lui, lui tire dessus, il s'effondre. J'étais avec Jean-Pierre et Rosa, on était 9h30 peut-être le mardi soir, la plupart d'entre nous étions partis. Et je me suis avancé vers cet homme et je lui ai demandé de se lever, essayer de se lever. Il m'a dit non, j'ai trop mal aux jambes. Et je voyais sa cuisse gonflée dans son jean. Il me dit qu'il doit avoir une atteinte déjà vasculaire. Et ça saigne dans ce gros muscle qui est le quadriceps. Il ne pouvait pas se lever, donc on a appelé les pompiers, le SAMU, etc. Voilà. Enfin, c'est arrivé juste là, sur le parking, pour des raisons de drogue. Mais ce qui est arrivé là, à Paris, ça touche tout le monde. Moi, j'étais à la recherche d'informations. Je me dis, bon, on a entendu des gens se faire massacrer en train de boire un pot le vendredi soir. La plupart des gens sont morts au Bataclan. Et j'ai vaguement entendu parler que ce concert qui avait lieu, c'était un concert de heavy metal américain. Je ne savais absolument pas le nom, ils n'en ont pas parlé beaucoup. Mais c'est un groupe qui s'appelle, et c'est Étienne qui me disait ça, Ego Metal of Death, qui veut dire l'aigle du métal de la mort. Bon, voilà, c'est un groupe américain. Qui exalte le libertinage, la pornographie. Et c'est durant ce concert que des gens ont été massacrés. 89 personnes, je crois. Et il y en a encore qui sont en sursis. Qu'est-ce qu'ils faisaient là, dans ce concert? Écoutant ce concert-là, des gens de toutes sortes, hein, de tous les âges, on les a vus à la télé, mais curieusement, on n'a pas parlé du concert. Alors, comme tout le monde, j'imagine, on était scotché à la télévision. Anna et Simon étaient là le vendredi soir. On recevait Olivier Beugin et sa famille, et puis Pierre et Marina. Et puis, d'un seul coup, on a quitté la table pour aller voir ce qui se passait. Rebecca nous dit qu'il y a quelque chose de grave qui s'était passé à Paris. Et William a proposé puisqu'on est tous chrétiens, qu'on prie. Et puis, on a prié tous ensemble par rapport aux événements. Hier soir, je regardais une émission de Ruquier qui avait invité plein d'artistes à venir et témoigner. Et c'était assez bon, touchant de voir ça, mais je me disais, mais les gens ne savent pas qu'ils ne connaissent pas grand-chose aux événements spirituels. Ils ne pensent d'ailleurs pas que c'est des événements spirituels qui se passent dans notre monde. Il y a un enjeu spirituel, ces gens ne font pas ça comme ça. Hein, ils sont en révolte contre la société, certes, comme beaucoup de jeunes le sont probablement ici, dans ce quartier. Ceci dit, j'ai vu que la grille était fermée, donc on est peut-être en sécurité, mais enfin, bon, peu importe. Mais durant cette émission, un gars qui se disait libertin a cité le Christ et le chapitre 5 de Matthieu, en disant « Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui la joue gauche. » Et ça fait flop. Il se dit, doit-on répondre par la haine à la haine? Ou est-ce qu'il y a un autre moyen de répondre? Et je me rappelle tout à fait ce que nous avait dit Étienne un jour à la ferme. Il nous parlait de, à ce moment-là du 11 septembre. Étienne nous disait comment aurait réagi le monde si George Bush avait dit « Au nom de ma foi et au nom de la foi de notre pays, nous vous pardonnons. » Comment est-ce que le monde serait... Est-ce qu'on serait capable de prendre ce risque-là à l'échelle d'un pays? Il y a quelqu'un qui l'a fait, c'était en Afrique du Sud. Hein. Nelson Mandela l'a fait. Pas forcément à ce titre-là, quoique, mais il a osé faire quelque chose qui n'avait jamais été fait auparavant. Alors c'est certain que quand quelqu'un vous dit « si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui la joue gauche », ça demande une force de caractère extraordinaire, mais c'est peut-être pas... C'est quelque chose qui est donné à l'individu. Si Jacques Rémy, je te frappe sur la joue droite et tu me tends la joue gauche, je vais être interpellé. Mais c'est toi seul qui le feras. On ne peut pas élargir ça à tout un pays. Parce qu'il y a aussi Romain XIII qui nous dit qu'on doit être soumis aux autorités et que bon, il y a la justice qui doit s'exercer. Et c'est important. Mais j'ai été surpris que cette phrase ait fait flop. Personne n'a réagi par rapport à ça. S'il y avait un juif qui était là sur le plateau, qui a quand même dit la loi du talion, hein, c'est quand même important. Œil pour œil, dent pour dent. Alors je me demandais de quoi on allait parler ce matin. Et puis, j'ai l'habitude de prendre les textes qui sont lus dans l'Église protestante, l'Église catholique, parce que bon, ça me challenge, parce que je me dis, tiens, voilà un texte, je n'ai pas forcément envie de parler de ça, mais voilà le texte qui m'est donné, et ce qui me permet après de parler avec les gens croyants de toutes sortes. Tiens, qu'est-ce que tu as pensé du texte? Qu'est-ce que tu as entendu à l'Église dimanche dernier? Comment est-ce que tu vis les choses? Et je trouve ça intéressant de le faire. Alors, les textes sont intéressants. Pierre a mentionné un texte de l'Apocalypse ce matin, durant Pierre Andrzejewski, durant la Sainte-Seine. Et là, il s'agit de textes aussi qui parlent de cela. Et je vais vous en citer deux sur les quatre. C'est le dernier chapitre de Daniel qui dit « qu'en ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y aurait point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui ont été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel et ceux qui auront enseigné la justice à les multitudes brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. » Le verset suivant est intéressant. « Toi, Daniel, tiens secrètes les paroles de ce livre, scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Alors, plusieurs le liront et la connaissance augmentera. » Donc ça, c'était le premier texte qui était proposé, et je lisais des commentaires au sujet de ce texte qui disaient que c'était une manière de... En fait, ça concernait directement l'époque. Cette terrible époque qui était sous Judas Maccabée, et où Judas Maccabée a pris un grec avait pris le pouvoir à Jérusalem, s'était installé même au niveau du temple, et le commentaire disait que c'était une façon, lorsqu'on parlait au passé ou au futur, c'était une façon de ne pas présenter le présent pour ne pas avoir à être attaqué. Une manière de dire qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans les temps de la fin. Et je lisais plusieurs commentaires, et puis on lira un commentaire dans un autre texte dans Marc 13, qui était aussi un texte apocalyptique que le Seigneur nous a enseigné. Et là, c'est pareil, tout est accompli, il n'y a rien de ce qui est annoncé, et vraiment dans le futur, on ne sait pas ce que le futur sera. Et une grande partie du christianisme est tombée là-dedans, c'est-à-dire que c'est vrai que notre Seigneur est déjà là, il est là au milieu de nous, mais le royaume de Dieu n'est pas encore là, totalement. Il est là par moments, mais il n'est pas totalement là. Donc on dit, il est déjà là, mais pas encore là. Et quelque part, notre christianisme est dans le déjà. Jésus est au milieu de nous, tout est accompli, et on ne l'attend plus. On ne l'attend plus. Et j'étais interpellé par le témoignage de Serge Jacquemus que Étienne mentionnait la semaine dernière, qui, à travers cette maladie, a eu cette révélation en disant « Je ne peux plus ne plus parler que du retour du Christ, comme quelque chose de très très important, de fondamental, que l'ensemble du christianisme a perdu. » Et je lisais des commentaires du cardinal Barbarin qui disait exactement la même chose. Il faut qu'on retrouve cette envie que le Christ revienne. Donc ça ne touche pas seulement nos églises protestantes, c'est aussi certains dans les catholiques qui se posent des questions en disant on ne peut pas ne pas prier pour ça. Pourtant, nous le chantons, nous le prions. Et j'avais été invité à témoigner à l'abbaye du Mont-des-Cas et j'ai perdu un ami et un frère, Jean-Paul. Et j'étais réuni avec tous les moines, c'était assez impressionnant. Et je leur disais quel était le sujet de notre conversation, Jean-Paul et moi, et on parlait souvent du retour du Seigneur ensemble. Et les moines étaient surpris. Et pourtant, j'ai dit, dans tout chez vous, quand je viens chez vous, quand je prie avec vous, lors des différents moments de prière dans leur journée, vous attendez le Seigneur. Noël, c'est pas se rappeler de Jésus qui est venu en tant que petit enfant, c'est surtout se rappeler qu'on l'attend. Et malheureusement, on a fixé nos regards sur ce petit enfant qui est venu une fois, qui, voilà, tout est accompli, et on ne l'attend plus. Mais pourtant, toute la liturgie de Noël dans l'Église catholique, ça serait plutôt le retour de Jésus. Il est déjà venu une fois, il revient. Et ça, quelque part, on l'a oublié. On l'oublie dans le monde catholique, dans le monde protestant. Et dans ces temps ceux qu'on traverse, il y a toujours eu des bouts de guerre, des bruits de guerre, mais il y a des choses de spirituelles qui se passent en ce moment. Je ne sais pas où est-ce qu'on va dans notre pays. Je ne sais pas quel sera le prochain attentat, mais ça nous pend au nez. Je crois que, enfin, tout le monde l'a dit, on aura beau mettre des armées, des polices, enfin, celui qui a envie de se faire sauter dans une rue ou dans un restaurant pourra le faire sans grand problème. On ne va pas contrôler quand même tout le monde. Et j'ai trouvé que ces textes étaient du coup un petit peu approprié à ce que nous vivons. En tout cas, de ne pas être dans la peur, comme je l'étais un petit peu ce matin. Je me dis, qu'est-ce qui va se passer? Suis-je prêt à mourir si quelqu'un vient et me tire dessus, ici, dans cette église, en aspergeant la foule de balles? Voilà le texte que Jésus nous donne, donc ça c'est 200 ans plus tard environ. Et alors ils verront le Fils de l'homme venant dans les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Il enverra ses anges pour rassembler ses élus des quatre vents, depuis le bout de la terre jusqu'au bout du ciel. Apprenez cette leçon tirée du figuier. Dès que ses branches commencent à bourgeonner et que ses feuilles apparaissent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses arriver, vous saurez que le temps est proche à la porte. Oui, je vous le dis, cette génération ne passera pas avant que toutes ces choses n'arrivent. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Et pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne les connaît, ni les anges dans le ciel, ni les fils, mais le Père seul. Soyez sur vos gardes, veillez, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Alors effectivement, on ne peut pas spéculer sur les choses. Mais il y a deux choses qui sont dites dans ce texte qui sont un petit peu contradictoires. D'un côté, le Seigneur nous dit qu'on ne saura ni le jour ni l'heure. Il s'agit de jour et d'heure, il ne s'agit pas de saison. Par contre, un peu plus haut, il nous parle de la saison, il nous parle du figuier. Et quand vous voyez les bourgeons arriver sur le figuier, vous savez que l'été est proche. On pourrait dire ça d'un autre. Le figuier n'était pas très très commun, mais depuis le réchauffement climatique, moi j'ai un figuier qui pousse à les maisons, dehors, sans problème. Donc on sait que les bourgeons arrivent et que l'été est proche. Donc il faut être comme le Seigneur nous dit, sur nos gardes, et nous dire que ça va arriver. Et peut-être que ce temps, le temps que nous vivons là, c'est un temps d'attente, et peut-être que le Seigneur arrivera. Un des pasteurs qui a accompagné Marie-Léna et qui a leur a dit un jour dans une classe: moi je vais mourir, mais vous serez peut-être la génération qui verra la venue de le retour du Christ. Et ça a habité aussi Pierre, cette notion-là. Quand bien même il arriverait dans 400 ans, on devrait, dans cette attitude-là en tout cas, se dire: c'est demain peut-être. C'est demain qui va peut-être arriver. Et ne pas perdre de vue cette chose-là, et le vouloir. Alors je sais que pas mal d'entre vous, je pense à Jean-Simon en particulier, l'évoquent régulièrement, et c'est quelque chose de bon. Pierre nous dit que nous pouvons hâter le jour du Seigneur, et c'est certain, si on le désire comme ça, que toute larme cesse, que notre monde puisse enfin être sous la gouvernance totale de notre Seigneur Jésus-Christ, ce serait quelque chose d'extraordinaire auquel nous devons aspirer les uns et les autres. En tout cas, que ce matin, ce soit un encouragement à tenir ferme, à ne pas avoir peur de ce qui va peut-être arriver, à être confiant dans le Seigneur. Et je lisais un petit, j'ai une petite revue que je reçois. Je pense que c'est les Odéou qui m'ont. Ça s'appelle Plaire au Seigneur. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vient des frères, mais Jacques Rémy me dit Messi. Donc les Odéou, c'est une famille avec qui nous sommes réunis en Guyane. Et le frère Odéou a des responsabilités maintenant au niveau des Gédéons. Et lui, il était responsable dans les eaux et forêts, de la forêt amazonienne à ce moment-là. Et on se réunissait régulièrement avec eux. Et c'est lui qui m'a envoyé ce petit livre que je reçois maintenant depuis un moment. Le verset qui est choisi, c'est « Afin que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature de la plénitude du Christ. » Et ça, c'est quelque chose qu'on a travaillé ce matin avec Pierre, c'est aussi Pierre Guillot, dans notre étude. Parce que Dieu est amour, il m'aime tel que je suis, il s'occupe de moi avec tendresse et fidélité. Parce que Dieu est souverain, ses plans envers moi, son enfant, parfait à tout égard, s'accompliront complètement. Parce que Dieu est juste, il me revêt de la justice de son Fils et ne m'imputera rien à tort. Parce que Dieu est immuable, son amour et sa bienveillance envers moi s'exercent continuellement, oui, toujours et partout. Je dirais, quelles que soient les circonstances, même au fond d'une prison, même à l'article de la mort, Dieu est avec nous. Parce que Dieu est saint, il a fait tout ce qu'il fallait pour me purifier, et dans la pratique, il me discipline pour que je participe à sa sainteté. Parce que Dieu est lumière, il éclaire mon chemin et mon intelligence renouvelée, mais aussi les coins ténébreux de ma vie pour les mettre en harmonie avec ce qu'il est. Parce qu'il est le Dieu vivant, de qui procède la vie, et qu'il est ressuscité, il a ressuscité son Fils Jésus-Christ, celui-ci peut m'assurer, parce que moi je vis, vous aussi vous vivrez. Parce que Dieu est omniscient, il sait où j'en suis avec lui. Il connaît donc mes besoins intérieurs, mes épreuves, mes peines, bien avant que je ne les ressente. Parce que Dieu est omnipotent, il me protège en toutes circonstances. Il peut me libérer des tentations et me rendre vainqueur, même si je suis au premier rang du combat. Parce que Dieu est omniprésent, il se trouve à l'endroit précis où je me trouve pour me dire « Eh, bon courage, je suis là et je comprends les blessures que la vie t'inflige. N'est-ce pas moi qui donne de la valeur à tout ce que tu fais, qui t'apporte le calme, la paix, la joie? Oui, je suis là, tout près de toi, à tes côtés. » Parce que Dieu est plein de grâce, il donne sans rien exiger au préalable, et il se réjouit de me voir apprécier les bénédictions dont il me comble gratuitement et abondamment. Le texte que nous avons lu dans Daniel est un des premiers textes qui parle de la résurrection. Et puis il y en a un autre qui parle de la résurrection, c'est Job, qui dit « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». C'est plus « Je crois que mon Rédempteur est vivant », peut-être que c'est pas vrai, c'est « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Et ça, c'est quelque chose d'hyper encourageant. Job, qui était au fond de la détresse, criblé de maladies, ayant perdu les siens, discutant avec Dieu, parce que c'est ce que Dieu nous invite à faire, à discuter avec Dieu, à crier à Dieu notre incompréhension de ce qui s'est passé à Paris. Comment un Dieu d'amour peut-il laisser faire ces choses? Et puis au-delà de tout ça, de lui faire confiance. Parce que Jésus est venu dans le monde, parce qu'il a mis le comble à son amour en mourant sur la croix à notre place, nous devons, malgré les circonstances, lui faire confiance. Et au fond de notre cachot, lui faire confiance. Si nous recevons des balles dans la peau, lui faire confiance. Dans toutes circonstances. Parce que Jésus est venu et qu'il s'est révélé, qu'il a révélé qui était Dieu, le Père, et qu'il était entièrement amour. Que nous soyons tous encouragés, comme je suis à être au milieu de vous. Que nous puissions nous entretenir mutuellement par des bonnes choses, nous encourager, nous confesser les uns les autres nos péchés. Que nous puissions vraiment avancer ensemble, discuter ensemble, communiquer ensemble, afin que nous puissions nous rapprocher de Dieu et qu'il puisse vraiment nous guider dans ce que nous devons être et faire. Je dirais surtout dans ce quartier. J'étais encouragé de pouvoir témoigner aux jeunes, de les inviter au concert, là, déjà, lorsqu'on était là devant le métro, et que nous puissions continuer à le faire. Il y en a qui n'étaient pas intéressés, bien, on continue à le faire. Vous êtes les bienvenus, venez au concert de Noël. Et je crois que c'est quelque chose d'important que nous puissions faire ces choses-là. La dernière fois que j'y suis allé, ça m'a coûté. J'étais pas beau, j'étais fatigué, mais je m'étais engagé, j'avais mis mon nom. Il m'est déjà arrivé de mettre mon nom et pas venir, c'est encore pire. Mais là, je dis, je dois y aller, on doit être là, et c'est quelque chose d'important de pouvoir témoigner de notre foi autour de nous. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Amen.